إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عن أبي ذر جندوب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. دبخي أبي ذر جندوب ابن جنادة اي أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل كالله سبحانه وتعالى لزقغي le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit: c'est un hadith bon, un hadith hasan, et dans d'autres copies, bon et authentique, hasan sahih. Ce hadith, mes frères, c'est un hadith immense, qui renferme trois paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chacune d'elles, c'est en réalité une recommandation indépendante comprenant de nombreux bénéfices. En fait, ce hadith, il t'indique en réalité la voie sur laquelle tu dois cheminer dans ta vie. Que cela concerne ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi en ce qui concerne ta relation avec ta propre personne et ta relation avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc commencé par la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ce qu'il y a de plus important. Il a donc dit: crains Allah, c'est-à-dire protège-toi du châtiment d'Allah et de sa colère. Et comment l'homme peut-il se protéger du châtiment d'Allah et de sa colère? La réponse est que l'homme se protège par la crainte d'Allah, par la taqwa, qui consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ce qu'il a ordonné et en s'écartant de tout ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: crains Allah, c'est comme s'il te disait: fais ce qu'Allah t'a ordonné et écarte-toi de ce qu'il a interdit afin de te protéger de son châtiment et de sa colère. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souligné un point très important. Car il a dit sallallahu alayhi wa sallam: crains Allah où que tu sois. C'est-à-dire, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le pays où tu te trouves, peu importe que les gens te voient ou non, que tu sois seul ou en public, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne doit pas être différente lorsque tu es devant les gens que lorsque tu es seul. Car il y a des gens, lorsqu'ils sont en public, ils manifestent de la piété. Ils s'appliquent dans sa prière, il est plein de quiétude, il a de belles paroles, il baisse le regard, il s'écarte des interdits. Puis lorsqu'il est seul, alors c'est une catastrophe. Il prie à toute vitesse, il laisse aller son regard sur ce qui lui est interdit de regarder, et il se laisse aller dans les péchés, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, en réalité, mes frères, c'est une caractéristique de l'hypocrisie. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve et qu'il nous accorde le salut. Le croyant véridique, il ne se soucie pas du regard des gens. Et il ne craint pas les gens, mais il ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit avec les gens ou qu'il soit seul, sa situation, elle ne change pas. Au contraire, certains savants, ils ont même dit que le croyant véridique, sa situation, elle est encore meilleure lorsqu'il est seul. Il est meilleur lorsqu'il est seul que lorsqu'il est avec les gens. Pourquoi? Car il a la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans son cœur et que rien n'est caché à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 5 de la sourate Ali Imran: Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Certes, rien n'est caché à Allah sur terre ni dans les cieux. Le croyant, il doit ainsi être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit craindre Allah où qu'il soit. Et ce, en se soumettant à ses ordres et en s'écartant de ses interdits. Et ceci est donc la première recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith et qui concerne la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa deuxième recommandation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abordé un point qui concerne la relation du musulman avec sa propre personne. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. C'est-à-dire que si tu fais une mauvaise action ou un péché, et ceci est inévitable, alors fais après celle-ci une bonne action afin que la bonne action, elle fasse quoi? Elle efface la mauvaise action. Et les savants, ils ont divergé au sujet de ce qui est visé ici par la bonne action. Certains ont dit que la bonne action, c'est le repentir. C'est-à-dire, si tu fais un péché ou une mauvaise action, alors fais-la suivre par le repentir. Repens-toi de cette mauvaise action. Et le repentir l'effacera, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés à celui qui se repent. D'autres savants ont dit que la bonne action ici est générale et elle englobe toute bonne action. Donc toute bonne action efface les péchés. Et ceci est la vie le plus juste, inshallah. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au verset 114 de Surat Hud, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. D'ailleurs, les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, rapportent qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit qu'il avait fait avec une femme tout ce que l'homme peut faire avec sa femme, sauf qu'il n'a pas commis la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors demandé s'il avait prié le fajr avec eux. L'homme répondit alors que oui, car il venait de prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors récité le verset « Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises ». Subhanallah. Ceci nous prouve que la bonne action, de manière générale, c'est une cause d'expiation des péchés. Et de nombreux hadiths sont rapportés au sujet de bonnes actions particulières qui expient les péchés, comme d'une prière à l'autre, d'une prière du vendredi à l'autre, d'un mois de Ramadan à l'autre, et ainsi de suite, parmi les bonnes œuvres mentionnées dans le hadith. Le musulman, il ne doit donc pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Et tu dois te comporter ainsi avec toi-même. Tu dois multiplier les bonnes actions et te repentir des mauvaises actions. Alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera si tu accomplis les causes pour te faire pardonner. Et ceci est donc la deuxième recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa troisième recommandation, elle concerne ta relation avec les gens. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. C'est-à-dire, traite-les de manière convenable, en leur adressant de belles paroles, en étant souriant avec eux, en étant indulgent et bienveillant envers eux, car tout ceci est une cause d'affection et d'union entre les musulmans. Tu dois donc adopter avec les gens un bon comportement. Et le bon comportement, c'est le caractère intérieur de la personne qui apparaît à travers ses actes. Et des savants ont défini le bon comportement par quatre choses. Premièrement, le fait de ne pas nuire aux gens, en ne leur causant aucun préjudice et aucun tort, que ce soit avec ta main ou que ce soit avec ta langue. Deuxièmement, le fait de prodiguer le bien en leur faveur, en faisant du bien aux gens, en leur offrant des cadeaux, en faisant des aumônes, et ainsi de suite. Troisièmement, le fait de patienter sur les nuisances qu'ils peuvent te causer. Quatrièmement, le fait d'avoir un visage radieux et souriant. Et on peut ici se poser une question. Est-ce que le bon comportement est quelque chose d'inné et naturel chez l'homme, ou bien peut-il s'obtenir en l'adoptant? La réponse est que certains comportements, ils sont innés, et d'autres, ils peuvent être obtenus en les adoptant. La preuve que certains comportements peuvent être innés est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ashaj ibn Abd al-Qais, radiyallahu ta'ala anhu, il y a en toi deux comportements qu'Allah aime, l'indulgence et la prudence. Il lui dit alors, ô messager d'Allah, est-ce que ce sont des comportements que j'ai adoptés ou bien Allah m'a-t-il créé ainsi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, c'est bien Allah qui t'a créé ainsi. Ashaj dit alors, louange à Allah qui m'a créé sur ce qu'il aime. Donc ce hadith, il nous prouve qu'il y a des comportements qui peuvent être innés et naturels chez la personne. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait grâce à son serviteur en le créant sur ce bon comportement. Mais de manière générale, le bon comportement, il peut être adopté par l'homme en faisant des efforts pour cela et en habituant son âme à adopter le bon comportement jusqu'à ce qu'il se caractérise par celui-ci. De la même manière que l'homme peut délaisser les mauvais caractères qui peuvent être naturels chez lui, comme on l'a vu dans un hadith précédent. L'homme, il peut aussi adopter les bons comportements et les bons caractères, et ce, jusqu'à s'emparer et se caractériser par ses nobles caractères. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous le meilleur des comportements. Ceci était donc une explication concise et résumée de ce hadith. Nous allons donc maintenant énumérer quelques bénéfices que l'on tire de celui-ci. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa, qui consiste, comme on a dit, à accomplir les ordres d'Allah et à s'écarter de tous ses interdits. Et ceci ne peut être accompli qu'en étudiant la science religieuse. Car celui qui ne connaît pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne connaît pas ses interdits, comment peut-il accomplir ses ordres et s'écarter de ses interdits? Donc pour atteindre la piété, pour atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est indispensable quoi? D'apprendre la science religieuse. Et la crainte d'Allah, c'est la recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressée à l'ensemble de ses serviteurs. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 131 de surat An-Nisa, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Et nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de craindre Allah où que tu sois, que ce soit en public ou lorsque tu es seul. C'est-à-dire que tu te soumets aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois seul ou que tu sois devant les gens. Et qu'est-ce qui est préférable? Est-ce qu'il est préférable d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en public ou en secret? La réponse est que cela dépend de la situation et de la personne. Si tu sais par exemple qu'en accomplissant une œuvre pieuse publiquement, alors ceux qui te voient, ils vont te suivre et te prendre pour modèle. Alors dans ce cas, il est préférable d'accomplir l'œuvre publiquement. Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, celui qui enjoint en islam une bonne tradition aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui l'ont mise en pratique jusqu'au jour de la résurrection. Donc, si tu sais qu'en accomplissant une œuvre publiquement, les gens vont te prendre pour modèle et te suivre dans cela, alors il est préférable d'accomplir cette œuvre publiquement et non pas secrètement. Tu augmenteras ainsi ta récompense. Par exemple, s'il y a une collecte dans un endroit. Une personne est en difficulté, un mendiant, un pauvre, un besogneux, vient pour demander de l'argent. Et toi, tu sais, de par ta renommée auprès des gens, ou de par l'amour que les gens portent envers toi, ou la confiance qu'ils ont envers toi, que si tu te lèves et que tu donnes une aumône à cette personne, alors eux aussi vont lui donner. Dans ce cas-là, il est préférable pour toi que tu donnes cette aumône publiquement, et non pas secrètement en te cachant du regard des gens. Car ainsi, tu vas augmenter ta récompense, car tu as la récompense de ton aumône et la récompense des gens qui t'auront suivi dans cela. Et en plus de cela, cela sera plus profitable pour cette personne qui est dans le besoin. De la même manière, il est recommandé aux pères de famille ou aux parents, de manière plus générale, d'accomplir les œuvres pieuses sous les yeux de leur famille dans leur foyer, et non pas de se cacher pour prier la nuit, par exemple, pour lire le Coran ou autre. Et ce, car les parents, ce sont des modèles pour leurs enfants. Donc s'ils se cachent des yeux de leurs enfants, s'ils se cachent de leur regard, comment les enfants pourront-ils avoir un modèle et avoir envie d'accomplir ces œuvres également? Donc le chef de foyer, il se doit d'accomplir certaines œuvres sous les yeux de sa famille, sous les yeux de son épouse, sous les yeux de ses enfants, et ce afin que les gens le prennent pour un modèle et le suivent dans cela. Et c'est à ce sujet qu'il est rapporté d'un groupe parmi les salafs et même de certains compagnons, comme Omar et Uthman, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'ils allaient prier la nuit dans leur mosquée, sous le regard des gens. Ils se rendaient dans leur mosquée la nuit pour accomplir leur prière de nuit, et ce car c'était des imams. Ils avaient pour intention en cela que les gens les voient et qu'ils prient également la nuit. Ils voulaient donc inciter les gens à prier la nuit comme eux le faisaient. Il est donc recommandé à la personne de science ou à la personne qui a une renommée auprès des gens d'accomplir des œuvres publiquement afin que les gens le suivent. Ceci concerne donc le cas d'une personne qui est suivie et prise pour modèle par les gens. Mais si ce n'est pas le cas, et que la personne sait qu'elle ne sera pas prise pour modèle en œuvrant publiquement, alors dans ce cas, il n'y a aucun intérêt à accomplir l'œuvre publiquement. Au contraire, il est préférable dans ce cas d'agir secrètement.
Et c'est à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera à l'ombre de son trône au jour de la résurrection un homme qui a fait une aumône secrètement à tel point que sa main gauche ne savait pas ce que dépensait sa main droite. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim. Donc si tu n'es pas pris pour modèle, le mieux pour toi est d'accomplir tes œuvres secrètement. Et ceci est plus pur pour toi et plus éloigné de l'ostentation. Et on parle bien sûr ici des œuvres qui peuvent être accomplies secrètement. Car il y a des œuvres que tu es obligé d'accomplir publiquement, comme la prière en groupe à la mosquée par exemple, ou la prière du vendredi. Il ne faut pas qu'une personne vienne et dise « Il est préférable pour moi d'accomplir ma prière chez moi afin que personne ne me voit et que j'adore secrètement Allah subhanahu wa ta'ala. » Non, cette adoration, elle est légiférée en groupe à la mosquée, sous les yeux des gens. Donc il est obligatoire pour toi d'accomplir cette prière en groupe avec les musulmans. Et qu'en est-il pour le délaissement des péchés? Est-il mieux de proclamer leur délaissement ou de les délaisser sans en parler? La réponse, c'est la même que pour l'accomplissement des bonnes œuvres. Par exemple, si un homme entend parler d'un travail et que ce travail comprend des choses illicites, comme de l'intérêt usuraire, de riba ou encore de l'alcool ou autre, par exemple. Alors dans ce cas, il le délaisse et s'en écarte tout en informant les gens. Et ce, afin que les gens le suivent dans cela et s'écartent aussi de ce travail. Il leur dit « J'ai délaissé ce travail car il contient telle forme de pratique usuraire. J'ai délaissé ce travail car dans cette entreprise, ils vendent de l'alcool ou ils vendent du porc ou autre. » Il fait cela publiquement et il en informe les gens et ce afin qu'ils le suivent dans cela et le prennent pour modèle. Mais s'il sait que cela n'aura pas d'influence sur les gens ou bien que ce soit une chose qui ne concerne que lui, alors le mieux est de ne pas en parler et ce par crainte de perdre la récompense de ce délaissement et de tomber dans l'ostentation. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'avertissement contre l'hypocrisie et contre le fait de manifester de la piété publiquement et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es seul. Ceci est très grave comme on l'a dit. Et la personne qui ressent cela, elle doit tout faire pour y remédier. Et se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses, même de ce que cache ta poitrine. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 19 de la sourate Ghafir, « Ya'lamu kha'inat al-a'yuni » Allah a connaissance de la trahison des yeux ainsi que de ce que cachent les poitrines. Et qu'est-ce qui est visé ici par la trahison des yeux? Les savants du tafsir mentionnent ici la parole d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, qui a dit « C'est l'homme qui rentre chez des gens chez qui il y a une belle femme. Ou alors, il est avec des gens et une belle femme passe devant eux. Alors, lorsqu'il ne prête pas attention à lui, il la regarde. Puis lorsqu'il le voit, lorsque les gens le voient, il baisse le regard. Et ainsi de suite. Dès qu'il ne le voit pas, il la regarde. Et dès qu'il le voit, il fait feinte de baisser le regard et de ne pas l'observer. Et Allah sait ce qu'il y a dans son cœur. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il dit ensuite, « Et Allah sait ce qu'il y a dans son cœur et qu'il aurait souhaité voir ses parties intimes. » Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver et de nous compter parmi ceux qui le craignent, en secret et en public. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les bonnes actions effacent les mauvaises, comme on l'a vu dans le hadith et dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que la meilleure action effaçant les péchés est de repentir, et que le serviteur se repente de son péché. Et ici, on va juste ajouter une question. Lorsque tu accomplis une bonne action après un péché, est-il nécessaire d'avoir l'intention que cette bonne action efface la mauvaise? Ou bien, est-ce que le simple fait de faire cette bonne action est suffisant? La réponse est que le sens apparent du hadith prouve que cela n'est pas nécessaire. Mais le simple fait d'accomplir la bonne action efface la mauvaise, et ceci nous amène au cinquième bénéfice de ce hadith, qui est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et son bienfait envers eux, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés lorsqu'on accomplit des bonnes œuvres. Et ceci car la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a devancé sa colère, comme il est venu dans un autre hadith. Le musulman, il doit donc être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Pour cette grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés à celui qui se repent d'un repentir sincère remplissant les conditions du repentir. Et quelles sont les conditions du repentir? La première condition du repentir est de cesser immédiatement le péché. La deuxième condition est d'avoir la ferme intention de ne plus commettre ce péché. Et la troisième condition est d'avoir des regrets et des remords d'avoir commis ces péchés. C'est-à-dire que tu n'es pas fier d'avoir commis ce péché, mais tu regrettes et tu as des remords et tu souhaiterais n'avoir jamais commis ce péché. Et on ajoute à cela une quatrième condition si le péché est lié à un droit des personnes, et c'est de leur rendre leurs droits. C'est-à-dire, par exemple, si une personne a la volé un objet, il fait partie de son repentir de rendre cet objet à son propriétaire. Ceci sont donc les quatre conditions du repentir que les savants mentionnent, et ils rajoutent une cinquième condition qui est le fait de faire cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car comme toutes les bonnes œuvres, le repentir doit remplir ces deux conditions pour être accepté. Donc si une personne se repent de cette manière, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne son péché, quel qu'il soit, et aussi grave soit-il. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 53 de Surat Az-Zumar, « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا » Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne l'ensemble des péchés. Donc, si le serviteur se repent sincèrement, à un moment où le repentir est accepté, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne l'ensemble de ses péchés. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'encouragement à multiplier les bonnes œuvres. Et ce, car elles sont une cause pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elles sont aussi une cause pour effacer tes péchés. Car tous les serviteurs font des péchés. Et les meilleurs de ceux qui font des péchés, ce sont ceux qui se repentent. Tu dois donc multiplier les bonnes œuvres tant que tu en as les capacités. Et tu dois prendre garde à ne pas te laisser aller dans les péchés. Car comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim rahimahullah, le péché, il vient faire obstacle à l'obéissance. Et il prend la place de l'obéissance. Et il coupe le chemin à une autre obéissance. Et il t'empêche d'en accomplir une autre, puis une autre. Et ainsi de suite. Le péché, il va alors t'empêcher d'accomplir de nombreuses bonnes actions. Alors que chaque bonne action, en réalité, est meilleure que ce bas monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, celui qui se laisse aller dans les péchés, il est comme un homme qui a mangé un aliment qui l'a rendu malade. Il a mangé une chose qui n'était pas bonne pour lui, et ça l'a rendu malade pendant une longue période de temps. Le fait d'avoir mangé ce mauvais aliment, ça l'a empêché de manger durant ses jours. Il s'est alors privé de nombreux aliments meilleurs que lui. Et telle est la situation de celui qui commet des péchés et se laisse aller dans ceci. Lorsque tu commets un péché, tu te prives de pouvoir accomplir des bonnes actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces péchés-là, ils t'empêchent et ils font obstacle à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc prendre garde à cela et implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'aide à multiplier les bonnes œuvres et à délaisser les péchés. Car on compte aussi parmi les méfaits des péchés qu'ils s'engendrent les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils se suivent et que l'un entraîne l'autre, jusqu'à ce qu'il soit difficile pour le serviteur de s'en séparer et de les abandonner. Comme certains prédécesseurs ont dit, rahimahumullah, on compte certes parmi le châtiment de la mauvaise action qu'elle en entraîne une autre après elle, et on compte certes parmi la récompense de la bonne action qu'elle en entraîne une autre après elle. Donc, lorsque tu commets un péché, tu dois immédiatement te rappeler de ce hadith et t'empresser de le faire suivre d'une bonne action afin d'effacer ce péché et que ce péché n'en entraîne pas d'autre. Bi'idhnillahi ta'ala. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'ordre de bien se comporter avec les gens. Et ceci englobe tous les gens. Et en priorité, tes proches parents, comme tes parents, ta famille, ton épouse, tes enfants et tous ceux qui sont proches de toi. Donc le musulman, il adopte un bon comportement avec l'ensemble des gens et en priorité avec les gens de son foyer. Je dis cela car il y a des personnes, lorsqu'ils sont devant leurs frères à la mosquée, ils ont un bon comportement. Lorsqu'ils sont devant les gens, qu'ils vont dans les commerces, dans les administrations, ils ont un bon comportement. Mais lorsqu'ils rentrent chez eux et qu'ils sont avec leur famille, ils ont un mauvais comportement. Ils parlent mal, il n'a pas le visage souriant, il est méchant, il est vulgaire, il se comporte mal avec son épouse, Il se comporte mal avec ses enfants. Il se comporte mal avec ses parents. Puis quand il ressort, alors c'est la meilleure des personnes. Il parle bien, il est souriant, il parle poliment et ainsi de suite. Ceci est une grave erreur. Les gens qui sont le plus en droit de ton bon comportement, ce sont les gens de ton foyer. Ce sont tes parents, ce sont ton épouse ou ton époux pour les sœurs, ce sont tes enfants, ainsi que les gens de ta famille. Ils sont les plus en droit de ton bon comportement. Donc le musulman, il se doit d'adopter un bon comportement avec l'ensemble des gens et en priorité avec ses proches. Enfin, on tire comme bénéfice de ce hadith que le droit le plus important est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, comme on a vu dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici trois droits. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit de ta propre personne et le droit des gens. Et le droit par lequel il a commencé et qui est le plus important, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs qui le craignent, qui multiplient les bonnes œuvres et qui ont un bon comportement avec les gens. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum allahu khayra.